cruzamento da Europa.
Раскруча Европей.
Ставродромы της Европис.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Le groupe de Visegrad, qui rassemble la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, existe depuis 26 ans. Longtemps en sommeil, ce groupe de Visegrad s'est réveillé en 2015 à l'occasion de la crise des réfugiés, les quatre pays refusant d'accueillir sur leur territoire le moindre exilé. Une attitude qui a provoqué pour le moins un certain malaise au sein de l'Union européenne. Depuis, malgré les apparences, la tension n'est pas vraiment retombée entre les Européens de l'Est et ceux de l'Ouest. Alors le groupe de Visegrad peut-il être ce grain de sable qui réussira à enrouer un peu plus la machine européenne? Ces pays qui s'étaient rassemblés pour entrer dans l'Union européenne cherchent aujourd'hui à s'unir pour imposer leur vision de l'Europe. Quel est leur réel poids? Ce groupe est-il aussi uni qu'il le voudrait? Va-t-on vivre une Europe fragmentée? Voilà quelques questions que nous allons aborder avec nos invités. Je vous les présente. Bonjour Lucas Maciek.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Sciences Po Dijon. Alors Sciences Po Dijon, c'est pas Sciences Po à Dijon, c'est plus compliqué.
C'est un campus délocalisé de Sciences Po Paris, donc délocalisé à Dijon, et qui a la spécificité d'avoir une ouverture très forte sur les enjeux européens en général et sur l'Europe centrale et orientale en particulier.
Et qui accueille d'abord des étudiants...
Qui accueille des étudiants français désireux d'approfondir ces éléments-là et des étudiants internationaux majoritairement des pays d'Europe centrale et orientale.
Et orientale. Gérard Klopnik, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à Sciences Po Paris et votre dernier livre s'appelle « Géopolitique de la démocratisation, l'Union européenne et ses voisinages ». Et il est paru aux presses de Sciences Po. Et puis, Piotr Mojinski, bonjour Piotr.
Bonjour.
Journaliste et RFI, qui n'est point besoin de vous présenter. Alors, Jacques Rupnik, je voudrais que l'on remonte quelques siècles l'histoire. Le nom du groupe de Visegrad n'a pas été choisi au hasard par les dirigeants des quatre pays en 1991. Il faut d'ailleurs préciser qu'en 1991, il n'était pas quatre, mais trois uniquement.
Oui, le 15 février 91, se sont réunis les trois présidents des pays d'Europe centrale, pour la Hongrie Antal, pour la Tchécoslovaquie Václav Havel et pour la Pologne Lech Walesa. Et ils ont choisi ce lieu, Visegrad, parce que c'est là qu'en 1335 avait eu lieu la réunion des rois de Bohême, le représentant de la couronne de Saint-Étienne et le roi de Pologne. Et donc, il y avait là une symbolique renoue avec une histoire très très ancienne. Mais les...
Alors, Visegrad, c'est en Hongrie, hein, faut le préciser.
Le Visegrad, c'est en Hongrie, à la frontière avec la Slovaquie. Donc ça, c'est un lieu tout à fait magnifique qui mérite d'être visité. Les origines immédiates de cette réunion, c'est pas 1335, parce que ça, là, même si on a la mémoire longue en Europe centrale, je crois que sur le plan politique, là, il y avait des considérations plus immédiates. Il y a eu une réunion à Bratislava en avril 90 qui a préparé un peu le terrain, mais convié à l'initiative donc du président Havel, et surtout, mais qui n'a pas débouché sur quelque chose de concret, simplement ça a préparé la réunion de février, et je dirais intellectuellement et politiquement, la véritable initiative, c'était dès janvier 90, tout de suite après la chute du mur et du régime communiste, lorsque Václav Havel se rendit au Parlement polonais, au Sejm, et il fit un discours important, disant en gros, nous sortons du soviétisme, de l'empire soviétique. Nous devons réfléchir à ce que nous allons faire de l'espace centre-européen, où il y a un grand vide laissé, non pas seulement par le départ soviétique, mais, dit-il, par la disparition de l'empire austro-hongrois. Donc il y a une matrice géopolitique en Europe centrale qui disparaît. Et nous devons donc chercher à combler ce vide par l'intégration européenne. Ça, c'est un... Nous avons un deuxième élément qui est... nous avons coopéré entre dissidents, à l'époque du communisme, nous devons transformer l'essai en coopérant dans la démocratisation de l'espace centre-européen. Et par là même, nous voulons surmonter les héritages anciens de l'entre-deux-guerres, qui n'étaient pas ceux de 1335 et de la coopération et les symboliques de ce type. Non, c'était l'affrontement des nationalismes en Europe centrale. En gros, entre 1918 et 38, c'était pas l'époque bénie de l'harmonie, de la démocratie, de la coopération. Non, il y avait les vainqueurs et les perdants du traité de Versailles et... Hugh Seaton Watson, l'historien anglais, avait parlé de guerre civile privée entre pays d'Europe centrale. Bon, surmonter les nationalismes, coopérer en Europe centrale, c'était ça l'objectif majeur.
Lucas Matchek, l'idée du groupe de Visegrad, c'est aussi de faciliter et de rendre, d'arriver ensemble, intégrer l'Union européenne et intégrer l'OTAN.
C'était l'idée. Après, il me semble que on en est resté assez loin. Je pense que si on regarde la façon dont les pays ont préparé leur adhésion à l'Union européenne, alors peut-être plus pour l'OTAN, mais pour l'Union européenne, je trouve que le côté chacun pour soi, cavalier seul, a primé, notamment dans la dernière phase, lorsqu'il s'agissait des éléments les plus durs, les négociations sur l'agriculture, sur le mouvement de la main d'œuvre, sur les aspects financiers de l'adhésion, la coordination du groupe de Visegrad était assez faible.
Mais tout le monde est à y entrer le même jour, c'est-à-dire le 2 mai 2004.
Tout à fait, mais comme les autres pays d'Europe centrale, parmi les 8 sur 10 qui adhéraient en 2004. Mais je pense qu'il y avait des tensions internes qui faisaient que ce groupe avait du mal à réellement fonctionner, à créer, parce qu'il y avait un peu le fantasme de faire une sorte de Benelux centre-européen. Je crois qu'on en est toujours resté très loin. Tout simplement parce que déjà, par exemple, la relation entre la Slovaquie et la Hongrie est toujours très très compliquée. Et aussi parce que je pense que les trois pays plus petits ont toujours eu le soupçon que Visegrad puisse être une sorte d'instrument d'une hégémonie polonaise qui n'avait aucune envie de reconnaître. D'autant plus que, par exemple, les Tchèques avaient la velléité de jouer les premiers de classe qui sont en vocation d'adhérer plus vite à l'Union européenne. Ça, c'est finalement
les Tchèques qui étaient à l'époque des Tchécoslovaques, d'où le passage de 3 à 4 pays.
Je parle plus de la période 95-2000, dans ces eaux-là, les gouvernements Klaus notamment, en République tchèque, donc gouvernement de centre droit, qui effectivement croyait très peu. Et c'était plus Václav Havel qui portait quelque part cet héritage, puisque c'était lui le fondateur du groupe de Visegrad, comme Jacques Lepnik l'a rappelé. Mais vu ses pouvoirs constitutionnels faibles, le gouvernement tchèque dans les années 90 était, me semble-t-il, assez sceptique sur la question de Visegrad, et il me semble que les gouvernements hongrois n'étaient pas vraiment différents.
Alors, Piotr Bojenski, ce qu'on peut dire, c'est quand même ça a plutôt bien fonctionné, l'adhésion de la Pologne, de la Hongrie, de la Slovaquie, de la République tchèque à l'Union européenne et à l'OTAN. Il faut quand même le signaler, c'est très important, oui. En 1999, c'est-à-dire 5 ans avant l'adhésion à l'Union européenne, ça a plutôt bien fonctionné. Tous ces pays, avec des hauts et des bas, des nuances, mais ont connu une success story économique. C'est oui, particulièrement vrai pour la Pologne, qui n'a même pas connu la moindre récession pendant la crise de 2008-2009.
Économique, certes, mais je crois que derrière cette ambition de s'intégrer au sein de l'Europe centrale d'abord, il y avait des motivations assez différentes peut-être d'un pays à l'autre. Pour la Pologne, c'était effectivement, il y avait plusieurs objectifs à l'époque. Trouver un moyen de montrer à l'Europe occidentale que en Europe centrale, on était capable de s'intégrer, malgré les conflits potentiels qui existaient entre différents pays. Et donc c'était assez important, déjà, qu'il n'y aurait pas de conflits et que ces pays montraient à l'extérieur qu'ils étaient capables de s'intégrer. Et pour la Pologne, il y a eu aussi cette ambition de se montrer comme leader régional, comme une puissance régionale. Et selon les hommes politiques à Varsovie, se mettre d'accord pour créer un groupe avec des pays plus petits soulignait par rapport à Bruxelles le fait que c'est la Pologne qui est le leader régional. Il voulait continuer comme ça aussi après, mais ça n'a pas forcément marché de la façon imaginée. Et donc je pense que l'instrument créé à l'époque est préservé jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais les fonctions de cet instrument ont changé profondément. C'est-à-dire, au début, c'était de rejeter les nationalismes, rejeter les conflits historiques, construire les États démocratiques, et évidemment exprimer un engagement européen. Et tout ça, ça a marché effectivement au début comme ça. Maintenant,
et
les fonctions sont différentes.
Et à peu près jusqu'à 2015, avec le déclenchement, la crise des réfugiés, l'afflux, le groupe du Visegrad, qui était un petit peu la belle endormie entre, on va dire, 2004 et 2015, s'est réveillé à ce moment-là, avec donc l'arrivée massive de réfugiés venant de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan, via la Turquie et les îles grecques. Quelques repères historiques et sonores avec Marie Afonso.
En 2015, pour faire face à l'afflux inédit de migrants à sa frontière, la Hongrie a édifié des clôtures de barbelés. La Pologne a refusé d'accueillir les migrants au nom de la sécurité. La République tchèque était débordée par les réfugiés. Et quant à la Slovaquie, elle était prête à en recevoir à condition qu'ils soient chrétiens. L'opposition commune des dirigeants polonais, hongrois, tchèques et slovaques sur la question de l'accueil des réfugiés a ainsi réveillé le groupe de Visegrad. Le premier ministre tchèque, Bohuslav Sobotka, a annoncé en septembre 2015 que le groupe de Visegrad avait élaboré une position commune, le refus de la politique de répartition des réfugiés par quota au sein de l'Union européenne, pourtant décidée lors d'un Conseil européen.
Nous soutenons le principe de solidarité, a-t-il souligné, et dans cet esprit, nous sommes prêts à faire davantage sur la base du volontariat. En revanche, nous refusons l'instauration d'un système de quotas qui se traduirait par la mise en place de mécanismes ou de mesures obligatoires.
En 2016, à l'occasion du 25e anniversaire du groupe de Visegrad, ces pays qui ont défendu une ligne dure sur la question des migrants ont également fait une proposition à l'Union européenne. Déclaration de la première ministre polonaise, Beata Szydło.
Un plan B alternatif mentionné dans la déclaration n'est pas dirigé contre un quelconque autre État membre, précise la première ministre polonaise. Nous appelons l'Union européenne tout entière à agir de manière coordonnée. Ce que nous demandons pour les Balkans, ce sont des solutions complémentaires au sein de l'Union. C'est notre contribution aux activités de l'Union tout entière.
W ramach Unii Europejskiej i traktujemy je jako wkład w działanie całej Unii.
Alors, Jacques Lepnik, pourquoi l'arrivée soudaine et massive de ces réfugiés a posé des problèmes aux pays du groupe de Visegrad? D'ailleurs, on peut rappeler que ces réfugiés, ils voulaient pas aller ni en République tchèque, ni en Slovaquie, ni en Hongrie, ni en Pologne. Ils avaient eu une idée, c'était l'Allemagne et éventuellement les pays scandinaves et nordiques. Pourquoi ça a été un déclencheur de ce qui est devenu par la suite une coupure entre l'Est et l'Ouest de l'Union européenne?
Je crois qu'il y a plusieurs explications. Certaines sont d'origine historique, culturelle et politique. L'explication immédiate, c'est la crainte de voir une vague de migration incontrôlée arrivant en Europe centrale, donc dans des pays qui n'ont pas connu de vagues migratoires auparavant. C'est des pays qui, en gros, depuis la guerre, étaient derrière le rideau de fer. On pouvait pas en sortir, mais on pouvait pas rentrer non plus. Donc, si vous voulez, il n'y avait pas de migrants. Moi, j'avais autrefois écrit un livre qui s'appelait « L'autre Europe ». Bon, de ce point de vue, du point de vue de la composition de la population, eux qui n'ont pas connu les vagues migratoires qu'a connu l'Europe occidentale depuis les années 60, essentiellement migration venue des anciennes colonies d'Afrique, du Maghreb, ou selon les pays, bien sûr, cela pouvait varier. Et donc, de ce point de vue, il y a véritablement, du point de vue de la composition, si vous voulez, de la population, j'allais dire la composition et ethnique, ou l'origine des populations, c'est une différence. Quand vous vous promenez dans les rues de Londres, de Paris ou de Bruxelles, pour pas dire Amsterdam ou Berlin, vous n'avez pas la même composition de la population que si vous êtes à Prague, à Bratislava,
à Prague,
Varsovie.
Disons que presque tout le monde a les cheveux blonds et les yeux bleus.
J'irai pas jusque-là, mais si vous comprenez qu'il y a donc, de ce point de vue, il n'y a pas eu, pendant 45 ans, ces migrations-là. Et d'ailleurs, depuis 90, les migrations venues en Europe centrale étaient soit des migrations de l'Est, par exemple des Ukrainiens. Il y a 250 000 russophones en République tchèque. La moitié, en gros, viennent d'Ukraine. L'industrie du bâtiment tchèque ne pourrait pas fonctionner sans eux. Mais ils ne posent aucun problème. Personne ne les remarque même, parce que... ils se font dans la population, ils apprennent très vite la langue, ils n'ont aucune revendication de statut de minorité, ils veulent pas construire tel ou tel symbole religieux ou politique. Il y a eu une migration pendant la guerre des Balkans. Beaucoup de migrants de Croatie, de Bosnie, de l'ex-Yougoslavie, intégrés sans aucune sans aucun problème en Europe centrale. Là, c'était différent parce qu'il y avait, je crois, une résonance historique et culturelle. La résonance historique, c'est l'invasion. Hein. Il suffit de voir chaque soir à la télévision les colonnes de migrants qui arrivent en Grèce, qui frappent à la porte de la frontière macédonienne pour rentrer en Europe. Ça, pour les Houhous qui arrivaient ensuite, ayant traversé la Macédoine et la Serbie à la frontière hongroise, ça évoque la période ottomane. Faut savoir que ils ont suivi la route ottomane, les migrants de 2015 via la Turquie vers l'Europe centrale. Ça résonne. Hein, les Turcs sont arrivés jusqu'à Budapest. La capitale de la Hongrie, pendant un siècle et demi, a été déplacée de Budapest vers une ville qui s'appelait Pozsony en hongrois, Presbourg en allemand, et qu'on appelle aujourd'hui Bratislava. C'était ça la capitale de la Hongrie, à cause des Turcs. Les Turcs étaient arrêtés à Vienne en 1683 par les troupes du prince Sobieski, un prince polonais. Donc ça résonne, l'idée de l'invasion, nous sommes le rempart face à une invasion. Et puis il y a une identité culturelle qui est à la fois nationale et européenne et qui se conçoit différemment du modèle qui prévaut en Europe occidentale. Et je simplifie à l'extrême. En gros, ce sont des nations culturelles qui, au XIXe siècle, sont devenues des nations politiques, avec l'ambition de créer leur État. Même si leur origine est très ancienne, et ils avaient connu des États. Le royaume de Bohème...
En 1935, on a rappelé le royaume de Bohème. 1335,
et bien sûr, il y avait le royaume de Bohème, le royaume de Bohème. Mais, en gros, l'ambition... la Pologne avait disparu de la carte de l'Europe à la fin du XVIIIe siècle. Donc, vous avez cette idée de la nation qui survit par la culture et souvent par l'identité religieuse. Dans le cas polonais, c'est tout à fait flagrant. Et donc, on construit la nation sur le modèle allemand, entre guillemets, qui est la Kulturnation. L'idée que la nation se définit par une langue, une appartenance culturelle, parfois par une dimension religieuse. À l'opposé, disons, du modèle français, où c'est l'État qui crée la nation. Et
tout le monde s'y conforme.
Et la citoyenneté, voilà, c'est la conception citoyenne. C'est les deux modèles qui prévalaient en Europe. L'Europe centrale s'est construite sur le modèle allemand, entre guillemets. Je souligne le modèle allemand parce que l'ironie, bien sûr, c'est que dans la crise migratoire, l'Allemagne a abandonné son modèle initial. Elle avait d'ailleurs auparavant déjà modifié sa loi sur la citoyenneté et sur la nationalité pour permettre essentiellement aux immigrants de Turquie de s'intégrer plus facilement en Allemagne. Donc elle a ouvert sa conception de la citoyenneté qui jusqu'à la période de l'an 2000 était fondée sur l'origine des parents, pas sur le lieu de naissance, contrairement au modèle français. Donc les pays d'Europe centrale, eux, ont cette conception, disons, culturelle, civilisationnelle, qu'ils transposent à l'échelle européenne. Nous défendons l'identité nationale, hongroise, slovaque, polonaise, et nous défendons par là même la civilisation européenne face à l'arrivée massive de migrants d'une autre culture. Et donc, on transpose à l'échelle européenne. Ironie, donc, au moment où l'Allemagne a abandonné ce modèle.
Totalement.
Et la chancelière, Madame Merkel, dit nous devons ouvrir les portes de l'Europe au nom des valeurs européennes. Que sont les valeurs européennes ? Les droits de l'homme universels. Donc, alors là, on est dans l'universalisme le plus total et le plus abstrait. Et de l'autre côté, face à une conception qui est beaucoup plus restrictive et défensive, protectrice de l'identité européenne.
Jacques Lubis, qu'on comprend bien déjà la différence de vision entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. On va évidemment y revenir, mais on va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du Monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Spicons français.
Cruzamento toute Europa.
Rescrucia Europei.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Lesesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, nous parlons du groupe de Visegrad qui rassemble la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Longtemps en sommeil, le groupe de Visegrad s'est réveillé en 2015 lors de la crise des réfugiés, les quatre pays refusant d'accueillir sur leur territoire le moindre exilé. Une attitude qui a provoqué pour le moins un certain malaise au sein de l'Union européenne. Depuis, malgré les apparences, la tension n'est pas vraiment retombée entre les Européens de l'Est et ceux de l'Ouest. Alors le groupe de Visegrad peut-il être ce grain de sable qui réussira à enrouer un peu plus la machine européenne? Ces pays qui s'étaient rassemblés pour entrer dans l'Union européenne cherchent aujourd'hui à s'unir pour imposer leur vision de l'Europe. Quel est le réel point de ce groupe? Est-il aussi uni qu'il le voudrait? Va-t-on vers une Europe fragmentée? Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Lukas Matschek, professeur de sciences politiques et directeur de Sciences Po Dijon. Jacques Rupnik, directeur de recherche à Sciences Po Paris. Et Piotr Mouchinski, journaliste à RFI. Alors, Lukas Matschek, dans la première partie, Jacques Rupnik nous a bien expliqué à quel point cette arrivée des réfugiés a fait renaître profondément un état d'esprit, une vision totalement différente, culturelle, entre cette Europe de l'Est, symbolisée par ce groupe de Visegrad, et puis cette Europe occidentale qui avait vu déjà intégrer des millions et des millions d'immigrés. Qu'est-ce que ça signifie profondément? Est-ce que finalement les Européens sont si différents que ça?
Je crois qu'il faut faire très attention parce que ce clivage-là, il existe dans tous les pays européens. On ne craindrait pas les résultats de la présidentielle française et des législatives néerlandaises si c'était un simple clivage Est-Ouest, où à l'Ouest, tout le monde serait sur des positions ouvertes, universalistes, libérales, et à l'Est, de l'autre côté, ce qui n'a pas du tout été commenté en France, c'est que je trouve que l'un des plus beaux discours sur les réfugiés, positifs sur les réfugiés, était prononcé par le président slovaque. Alors bien sûr, Monsieur Kiska, il n'a pas beaucoup de pouvoir, voire pas du tout, mais en tout cas, mais c'est quand même quelqu'un qui était élu au suffrage universel. Il n'a pas hésité à entrer dans un conflit ouvert avec le gouvernement slovaque sur ce sujet-là. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est complexe en Europe centrale orientale. Aussi. On part des pays de Visegrad, 4 pays sur 10 pays membres de l'Union européenne, d'Europe centrale orientale. Et d'ailleurs, je rappelle aussi que lors du fameux vote sur les quotas, la Pologne, encore sous l'ancien gouvernement, s'est finalement désolidarisée. C'était vécu d'ailleurs comme une trahison par les trois autres. Donc le groupe Visegrad n'a pas tenu. Bien sûr, aujourd'hui, il tiendrait puisque le gouvernement polonais a changé. Et en revanche, la Roumanie a voté avec la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais juste si je peux encore ajouter aussi un élément, c'est qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le changement géopolitique. C'est-à-dire tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut aussi voir que c'est dans un contexte post-création d'État islamique, post-perception d'une menace terroriste qui, évidemment, a commencé dès le 11 septembre, mais qui est devenue beaucoup plus forte en Europe. Et donc, derrière ce discours anti-réfugiés, en Europe centrale, il y a un discours anti-musulman très très fort, d'autant plus fort qu'il y a une ignorance à peu près totale de ce qu'est l'islam, et une vision assez fantasmée, ce qui fait que, par exemple, le président tchèque est capable de dire des propos extrêmement choquants, que même l'extrême droite française n'oserait pas dire, et ça ne provoque pas forcément des remous énormes dans la société tchèque, tout simplement parce que l'islam, la coexistence entre l'islam et la société occidentale, c'est quelque chose de totalement abstrait pour ces pays.
Alors, comme vous le disiez, Piotr Mouchinski, le groupe de Visegrad s'était conçu, imaginé pour lutter contre les nationalismes dans un premier temps, et aujourd'hui, il prospère sur justement les nationalismes de ces différents pays.
Alors, dans le cas polonais, ce qui était difficile et qui reste difficile pour les Polonais, c'est le fait que, après la Deuxième Guerre mondiale, la Pologne a reçu, entre guillemets, de nouvelles frontières qui différaient beaucoup de ces frontières d'avant la guerre. Et avant la guerre, la Pologne était un État vraiment multiculturel, multiethnique, et la population était habituée à voir les autres, très généralement parlant, dans la rue, dans les commerces, partout. Après la guerre, la Pologne est devenue un pays très, très homogène ethniquement.
Notamment après la Shoah.
Oui. Donc, il y a deux générations polonaises qui ont vécu sans avoir à gérer un problème des minorités ethniques. C'est un sujet complètement absent de l'espace public. Et maintenant, ils se sont menacés non seulement par cette perspective de changer des mentalités. On demande beaucoup à cette population, mais aussi au sentiment d'être menacé par la vague d'attentats. Tous les attentats en France et ailleurs sont suivis très, très attentivement en Pologne, bien qu'il n'y a eu aucun attentat islamiste en Pologne jusqu'à maintenant. Mais on craint beaucoup l'arrivée des terroristes avec la vague d'immigration. Et je surveille évidemment les réseaux sociaux polonais. Les commentaires après chaque attentat en France, à côté évidemment de regrets, des condoléances, des compassions, une bonne partie des commentaires consistait à dire « mais les Français sont franchement stupides, ils ont laissé entrer des millions d'immigrés, ils tolèrent ça, ben maintenant ils ont ce qu'ils voulaient ». Et finalement, le troisième point, l'attitude de l'Église. Et le facteur religieux est très important car l'Église polonaise s'estime elle-même monopoliste sur les âmes polonaises. C'est-à-dire, elle supporte très mal la concurrence, tout simplement. Et c'est pour cela que le protestantisme en Pologne a toutes les difficultés à trouver une place pour soi. L'islam est très, très minoritaire. Juste au nord-est de la Pologne, on peut trouver des Tatars qui sont...
C'est très, très marginal, quoi.
Très, très marginal. Et donc, l'Église craint, tout simplement, et les catholiques, ce qu'on on les appelle les vrais catholiques polonais, craignent beaucoup l'arrivée d'une concurrence. Ils ne se sentent peut-être pas assez forts dans les conditions de monde ouvert, moderne d'aujourd'hui, ils se sentent pas assez forts dans leur foi pour la défendre devant une concurrence éventuellement agressive philosophiquement et mentalement.
Luc Smaczek, vous vouliez réagir.
Juste trois éléments supplémentaires qui me paraissent importants. C'est effectivement qu'il y a un côté un peu repoussoir du modèle occidental. Totalement amalgamé d'ailleurs, c'est-à-dire on amalgame le modèle d'intégration à la française, à la britannique, à l'allemande, qui sont pourtant différents, mais globalement...
Même s'il a fasciné aussi au niveau, par exemple, de la consommation, par exemple.
Oui, non, mais je parle de modèle d'intégration des immigrés non européens. Et il y a globalement un sentiment, il y a un discours totalement dominant sur le fait que c'est globalement un échec. Et c'est vrai que la façon dont ces pays eux-mêmes sont déchirés sur ces sujets-là dans leur débat politique interne, effectivement, n'aide pas forcément à montrer le contraire. Il y a un deuxième élément important, c'est l'absence du passé colonial, qui à la fois crée l'absence de familiarité, on connaît pas ces populations-là, on n'a pas l'habitude de les fréquenter, mais aussi l'absence de mauvaise conscience et d'un sentiment de dette morale à payer. Et puis un troisième élément aussi qui me paraît finalement un peu le déclencheur de tout ça, c'est tout simplement, comme malheureusement souvent, une exploitation totalement cynique, électoraliste de cette affaire-là. Il faut voir que l'affaire des réfugiés est tombée pile au moment où M. Orban en Hongrie commençait à être un peu en difficulté, et c'était le don du ciel pour relancer sa légitimité avec une campagne politique contre la figure du réfugié, qui effectivement était très difficile à tolérer, je dirais, pour vu de l'Ouest, mais vu aussi de la partie libérale de la société hongroise.
Alors, j'ai retenu que le point commun des systèmes politiques de ces quatre pays, c'est que globalement, ils sont ici de partis populistes de gauche ou de droite, ou en tout cas le sont devenus. C'est le cas de la Pologne avec le PiS, en tout cas ils sont perçus comme des partis populistes. C'est le cas aussi de Robert Fico, le SMER en Slovaquie, évidemment le Fidesz de Viktor Orban en Hongrie, alors peut-être un peu moins en République tchèque avec Bohuslav Sobotka. Le point commun, c'est que tous ces pays sont dirigés par des partis qui sont devenus populistes s'ils ne l'étaient pas, et en plus il n'y a aucune alternative politique. Les partis de gauche ou d'opposition sont toujours très très faibles, ou en tout cas l'opposition elle est encore plus extrémiste la plupart du temps.
Alors c'est vrai que depuis l'arrivée au pouvoir de Viktor Orban en 2010, on a eu un retour de balancier après la phase libérale post-89. La phase libérale, en gros, c'est on construit des démocraties avec la séparation des pouvoirs, avec l'état de droit, avec une cour constitutionnelle, et on s'intègre dans le modèle européen qui, lui, fonctionne principalement sur le mode de l'état de droit. Si on n'a pas l'état de droit, le système européen s'écroule. C'est aussi simple que ça.
Donc il y a eu, dans un premier temps, une imitation, une volonté d'imiter.
Une imitation, on se calque sur des modèles, disons, politiques occidentaux. Orban commence un retour de balancier. Je crois que ça a commencé tout de suite après l'adhésion à l'Union européenne, en fait. Quand on se souvient que le premier ministre polonais de l'époque, l'échec Miller, a donné sa démission le lendemain de l'adhésion à l'Union européenne, que le premier ministre tchèque, un mois après, que le premier ministre hongrois, un mois après le tchèque, on a là des gens qui, normalement, auraient dû être au zénith de leur popularité en disant « nous avons accompli une œuvre historique, nous avons amené notre pays dans l'Union européenne ». Non, à peine arrivés dans l'Union européenne, ils démissionnaient et, je dirais, un retour de balancier commençait. Et ce retour de balancier, aujourd'hui, on le voit dans toute sa splendeur, c'est la vague antilibérale. C'est pas la dictature comme on le lit quelque part, ce n'est pas non plus une menace du fascisme, etc.
C'est au moins l'autoritarisme.
C'est un, voilà. Alors, c'est une dérive autoritaire, mais dans un contexte, j'allais dire, démocratique où on se fonde sur le mandat direct du peuple. On ne veut pas de la séparation des pouvoirs, parce que c'est une contrainte à l'expression de la volonté populaire. On ne veut pas de la Cour constitutionnelle, parce qu'elle pourrait limiter l'expression de cette volonté populaire. Toutes les institutions jugées politiquement neutres, Banque centrale, Cour des comptes, enfin tout ce qui pourrait
et d'une manière générale, tout ce qui vient de Bruxelles, par définition.
Et alors, par définition, Bruxelles, c'est l'incarnation par excellence de cette contrainte sur l'expression du suffrage universel. Et donc, on a, en Pologne comme en Hongrie, mais sous une autre variante, en Slovaquie, on a cette affirmation du souverainisme, la souveraineté populaire, et en gros, renforcer l'exécutif. Parce que si vous faites sauter les contre-pouvoirs des médias, la Cour constitutionnelle et ailleurs, vous renforcez l'exécutif. Et évidemment, ce souverainisme, matinée de nationalisme dont nous avons parlé à propos de la crise migratoire, fait qu'en Slovaquie, vous avez un gouvernement qui est composé d'un populiste nationaliste de gauche,
Robert Fico,
qui est allié avec le Parti national slovaque, qui serait une version du Front national français, même s'il s'est modéré ces derniers temps. Et dans l'opposition, vous avez un parti ouvertement fasciste. Le parti du côté bas. Donc des gens qui sont les nostalgiques de la période de la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous avez là un continuum des nationalismes en Slovaquie, même si, comme je dis, en Slovaquie, ça prend une version atténuée par rapport à la vigueur de Kaczynski et Orban. Kaczynski et Orban disent aujourd'hui, ensemble, réunis dans les Tatras, dans les montagnes, à la frontière entre la Hongrie et la Slovaquie, mais ce qu'était la Hongrie autrefois, avant 1918, et ils déclarent ensemble vouloir faire une contre-révolution en Europe. Il faut voir l'enthousiasme avec lequel Viktor Orban a accueilli l'élection de Donald Trump. Voilà quelqu'un de formidable. Voilà quelqu'un qui construit des murs. Vous avez pointé du doigt la Hongrie. Mais non, avec le Brexit, qui est un rejet de l'immigration, le vote tri-Brexit, et de l'immigration d'où ? D'Europe de l'Est, ça ils oublient de le dire. avec Donald Trump, qui est en grande partie rejet de l'immigration, etc., nous sommes l'avant-garde. Vous nous avez pointé du doigt comme des arriérés qui ne comprennent pas le libéralisme et l'état de droit. Nous étions l'avant-garde du national-populisme dans le monde occidental. Et oui, quand Viktor Orban, pour saluer l'élection de Donald Trump, le lendemain dit « les jours de la démocratie non-libérale sont terminés », what a day, what a day, what a day. Il exulte. Il est absolument enthousiasmé par l'élection de Donald Trump. C'est un euphémisme de dire que le reste de l'Europe ne partage pas cette vision.
Alors justement, pour compléter vos propos, Jacques Rupnik, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International, non pas à Paris, mais à Budapest, avec Joël Le Pavot. Bonjour Joël.
Bonjour Daniel.
Dans un article du site napi.hu que vous avez retenu pour Courrier International, le journaliste Sandor Komoskin met en évidence que la Hongrie de Viktor Orban est le cheval de Troie de la Russie dans l'Union européenne.
Oui. Eh ben, en fait, Napi surtout soulève deux thèmes importants, à la fois les contrats notamment qui ont été passés entre Viktor Orban et Vladimir Poutine, que ce soit sur la rénovation de la centrale nucléaire de Pokch, donc un contrat qui a été signé en 2014 et où il est question d'un prêt de 10 milliards d'euros, mais aussi d'un point de vue des sanctions, notamment à l'égard de la Russie après l'invasion de la Crimée, où l'on voit notamment le ministre des Affaires étrangères d'Orban, donc Peter Szijjártó, qui prend volontairement position en dénonçant justement l'inutilité de ces sanctions. Et Orban lui-même, d'ailleurs, a expliqué, notamment à la Fondation Konrad Adenauer, fin janvier, qu'il fallait absolument revoir, faire un grand aggiornamento des relations russo-européennes pour développer une meilleure coopération à l'avenir.
Et par exemple, il est favorable à la levée des sanctions contre la Russie.
C'est ça, il est favorable à la levée des sanctions et c'est une position qui a été confirmée par son propre ministre des Affaires étrangères.
Viktor Orban pose aussi un certain nombre de problèmes à la droite européenne puisque son parti, le Fidesz, est membre du PPE. Le PPE, c'est le Parti Populaire Européen qui rassemble sur les bancs du Parlement européen toutes les droites européennes.
Oui, il pose des problèmes, d'autant plus qu'il y a un espèce d'équilibre assez délicat à tenir, puisque le PPE a dénoncé, et notamment cette visite, cet accueil chaleureux qui a été réservé à Vladimir Poutine, en tout cas officiellement. Mais ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est que le président du PPE, Joseph Daul, est un ami très proche de Viktor Orban, ce qui fait que Orban a un petit peu plus quartier libre qu'auparavant pour pouvoir sortir ses discours un petit peu populistes. Voilà, quand on l'entend dire, par exemple, que la colère du peuple va chasser les élites et placer des politiciens honnêtes au pouvoir. Orban, quand il parle de politiciens honnêtes, il pense à des Heinz-Christian Strache ou à des Norbert Hofer, à des Marine Le Pen ou à des Geert Wilders. Et quand Orban cible volontairement les ONG, comme c'est le cas en ce moment, notamment les ONG créées par George Soros, il fait grincer des dents au PPE, mais le PPE ne va jamais véritablement plus loin qu'une simple dénonciation de principe.
Alors, Luc Smatsek, même si Viktor Orban dit « nous allons refaçonner l'Europe », c'est ce que expliquait un peu Jacques Rupnik juste avant l'intervention de Courrier International et de Joël Le Pavou, on sent bien quand même qu'il y a des contradictions au sein de ce groupe de Visegrad, notamment autour de la Russie, car si Viktor Orban est très proche de Vladimir Poutine, évidemment du côté polonais, Vladimir Poutine, c'est l'horreur absolue.
Encore une fois, je crois que le découpage par le groupe de Visegrad passe à côté de la cime. C'est-à-dire, c'est un problème européen. Et d'ailleurs, on voit bien que la vague, elle est venue de l'Est. Maintenant, elle vient de l'Ouest avec Donald Trump et Brexit. Il y a profondément un problème dans les pays européens, partout. Maintenant, on se satisfait quand l'extrême droite autrichienne perd à 49%. Chose inimaginable, c'est un scandale pas possible autour des années 2000 lorsqu'elle a fait 30%. Aujourd'hui, elle a 49% et tout le monde est soulagé parce qu'elle aurait pu être à 51%, voire plus. Donc, il y a un problème et effectivement, il se dessine une coalition hétéroclite et qui est capable, dans certains pays d'Europe centrale et orientale, d'accéder au pouvoir et de s'y maintenir relativement longtemps, alors que à l'Ouest, jusqu'ici, le bloc, on va dire, libéral, pro-européen, résiste, mais résiste de plus en plus difficilement. Et c'est un bloc qui, effectivement, a un certain nombre de signes de reconnaissance. Une espèce de fétichisation du vote populaire et rejet, critique très dur de tout ce qui n'est pas soumis au suffrage. Regardez la réaction des Brexiteurs face au juge britannique qui a osé relativiser la portée du vote du référendum sur le Brexit. L'autre signe de reconnaissance, c'est un discours antilibéral assumé, dur, et pas seulement économique, mais antilibéral tout court. Effectivement, très souvent, le signe de reconnaissance, c'est un conservatisme très dur sur des questions de société.
Par exemple, le mariage pour tous.
Voilà. Et puis la dénonciation du politiquement correct et tout ce qui va avec, Donald Trump en étant l'exemple magnifique. Et puis, quatrième élément, effectivement, la Russie. C'est-à-dire justement parce que Vladimir Poutine est perçu comme un homme de poigne, quelqu'un qui effectivement, certes, est peut-être un peu trop autoritaire, mais il y a de l'autorité de l'État et c'est ce que ces gens-là veulent. Et aussi quelqu'un qui, justement, entre guillemets, ose dire des vérités qu'on ne veut pas entendre en Europe. Je mets vérité entre guillemets sur les droits des homosexuels,
des
sur
minorités,
la famille, sur tout chez soi. Et on voit là... En France, on voit bien cette coalition qui va et qui va bien au-delà de ce qu'on considère comme des extrêmes. C'est-à-dire, vous avez une partie de la droite républicaine avec la famille pour tous, avec François Fillon, qui finalement Bien sûr, elles divergent sur d'autres points, mais en tout cas, il y a une convergence sur un certain nombre de sujets. Et par exemple, vous avez évoqué la question des sanctions. Bah, effectivement, si François Fillon est élu président, et évidemment si Marine Le Pen l'était, on aura aussi un président français qui sera sur cette ligne-là.
Alors, est-ce que le groupe de Visegrad a autant de poids qu'il aimerait en avoir, 4 pays, on peut le rappeler, et environ 64-65 millions d'habitants, un PIB autour de 800 milliards, en France on est à plus de 2000 milliards, voilà, le poids économique est relativement faible, même si la croissance est réelle dans ces pays, et le poids démographique, c'est l'équivalent de la population de la France, ou de l'Espagne, de l'Italie ou du Royaume-Uni.
Pour moi, c'est un groupe qui, depuis son adhésion à l'Union européenne, mais déjà avant, était dans une posture essentiellement suiviste, et c'est normal pour toutes les raisons que vous dites. C'est un groupe qui jusqu'ici manquait de vision. Alors effectivement, il se trouve qu'il y a deux gouvernements qui, eux, ont une vision articulée effectivement avec cette idée de contre-révolution, de démocratie illibérale comme dit Viktor Orban, et M. Kaczynski qui est le vrai homme de pouvoir en Pologne aujourd'hui, même s'il n'a aucune fonction officielle. Effectivement, là, on a peut-être un début, mais je pense que leur relative force, elle est uniquement produite de l'horrible faiblesse de ce qui est en face. C'est-à-dire, s'il y avait un projet européen fort, un projet de relance européenne forte, qu'il soit franco-allemand, qu'il soit Benelux, qu'il soit... Je pense que ces pays, très vite, seraient posés devant un dilemme où, finalement, ils trancheraient pour un choix européen, pour des raisons géopolitiques, pour des économiques. Le problème, c'est que face à ces discours-là, à l'Ouest, on a un non-discours qui ne fait que céder du terrain contre les équivalents locaux de ces discours qui prennent des formes moins brutales, c'est-à-dire effectivement à l'Ouest, on va dire que les gens qui ont la même couleur idéologique que M. Orban, ils mettent plus de forme, ils font plus attention, ils évitent une certaine phraséologie qu'effectivement en Europe centrale on n'hésitera pas à faire, mais si on creuse un peu, c'est très largement la même chose, ou en tout cas, il y a des parentés très très fortes.
Alors justement, la réplique de l'Europe occidentale, on va dire, des Français, des Allemands, c'est de dire que tôt ou tard, il faudra construire une Europe à plusieurs vitesses, et ça, c'est évidemment un peu difficile pour le groupe de Visegrad, d'autant plus que on peut rappeler que la Slovaquie est dans l'euro, les trois autres ne le sont pas. On a déjà dit que la Hongrie avait un tropisme russe très fort, les Polonais pas du tout. Donc, est-ce qu'à un moment, cette absence de vision, d'énergie européenne, ça va pas être cette Europe à plusieurs vitesses, et donc les pays du groupe de Visegrad devront prendre position.
Moi je veux bien, mais est-ce que vous voyez aujourd'hui un projet franco-allemand fort? Est-ce que la France et l'Allemagne sont d'accord sur la conception de ce qu'est la gouvernance économique de la zone euro? Non. Qui est aujourd'hui le candidat qui a une chance d'être élu en France avec un vrai projet européen travaillé, profond, qui serait dans la lignée des pères fondateurs? Là encore, François Fillon, c'est l'héritier du gaullisme, c'est quelqu'un qui a voté contre Maastricht, qui a toujours été sur un versant... Voilà, donc... Est-ce que là, ça sera facile de monter un projet d'un noyau dur avec l'Allemagne, alors que dans un contexte beaucoup plus favorable à la fin des années 90, face à la proposition allemande, la scène politique française est restée muette aujourd'hui? Alors, effectivement, le seul espoir, c'est que la situation géopolitique avec Donald Trump d'un côté, Vladimir Poutine de l'autre, une fois de plus, comme disait Jean Monnet, la nécessité obligera les Européens à avancer. C'est peut-être la seule chance, c'est que la peur des deux grands méchants fera avancer l'Europe. Mais quand on regarde les positionnements des hommes politiques français et allemands, si on prend que ce couple-là, je ne parle pas des Italiens, des Espagnols et des Néerlandais, j'ai du mal à voir un début d'un véritable projet. Et encore une fois, le jour où ce projet-là sera sur la table, je pense que Visegrad, ça sera une quantité négligeable.
Parce qu'il faut quand même rappeler qu'aucun de ces pays n'envisage de quitter l'Union européenne. Il n'y a pas d'idée de Hongrixit ou de Polonxit. Non, tous ces pays ont envie de rester dans l'Union européenne.
C'est ambigu.
Ambigu, qui veut rebondir, Jacques Rupnik?
Déjà, il faut dire, ils tirent d'énormes bénéfices de leur appartenance à l'Union européenne.
Des subventions.
Pays comme la Hongrie, c'est 3% de son PNB. Les 100 milliards de la période budgétaire actuelle, c'est à peu près 100 milliards pour la Pologne, etc. Ça, c'est économiquement, c'est impensable. Deuxièmement, géopolitiquement, ça a été dit, il y a quand même la Russie à côté. Avant de sortir de l'Union européenne, au moment où Donald Trump exprime des doutes sur l'OTAN,
on va y réfléchir.
On réfléchit à deux fois. Il y a l'Union européenne, c'est une politique d'assurance. Donc la leçon pour eux du Brexit, c'est rapatrier les pouvoirs vers les gouvernements nationaux, c'est-à-dire affaiblir l'Europe encore plus. Et là, je trouve qu'ils se tirent une balle dans le pied, parce que l'intérêt bien compris de ces pays, c'est une Europe forte. Géopolitiquement, pour les raisons qui ont été indiquées. Or, l'Europe forte, d'abord, on ne la voit pas maintenant, elle pourrait naître. Alors là, en style télégraphique, il y a des élections en Hollande, en France, en Allemagne. Imaginons un instant que les scénarios catastrophes ne se produisent pas, qu'en Hollande, M. Rutte avec une coalition... Wilders va arriver premier et le parti xénophobe. Mais personne ne voudra faire de coalition avec eux. Rutte pourrait continuer, les libéraux, dans une coalition. En France, c'est pas exclu que quelqu'un comme Macron soit au deuxième tour et devienne président. C'est le plus pro-européen. C'est le seul candidat qui, d'ailleurs, parle ouvertement de l'Europe dans sa campagne.
C'est le seul à faire plaisir l'Europe.
Et on a en Allemagne, on a le président du Parlement européen, Martin Schulz, qui est revenu au pays et qui maintenant est remonté à plus de 30%. Soudain, l'Europe n'est plus une voie de garage pour un politicien, c'est un tremplin pour entrer dans la politique nationale. Le rééquilibrage avec Merkel se fait. Et s'il y avait une grande coalition reconduite, ce qui n'est pas certain, ce sera une coalition pro-européenne. Et on aurait là les conditions politiques pour une relance.
Le pire n'est jamais sûr.
Le pire est absolument pas sûr.
Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier avec la complicité de Pauline Simon. Sur votre ordinateur RFI.fr ou via votre smartphone ou encore votre tablette, vous pouvez réécouter cette émission et d'ailleurs toutes les autres. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desescalos, que vous soyez à Varsovie, à Prague, à Budapest, à Bratislava ou ailleurs dans le monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Appelez-nous, exprimez-vous.